Mais comment ferez-vous, monsieur Deacon, pour conserver un poulet pendant des semaines si vous êtes bloqué par la neige au camp 3 sous le col Nord? Vous comptez emporter de la glace, un appareil électrique de réfrigération? Nous nous réveillons de bonne heure dans la plantation de Reggie. Le jardin derrière la maison est aussi vaste qu'un terrain de cricket et son gazon aussi bien entretenu. Plus loin, les brouillards matinaux semblent monter comme une haleine des rangs de théiers. Et soudain, j'aperçois des silhouettes qui s'avancent entre ces rangs, puis émergent sur la pelouse, comme si la brume se coagulait en formes humaines. J'en dénombre 30 qui pénètrent dans le jardin, tandis que le soleil s'intensifie et commence à dissiper le brouillard. Derrière les collines, les sommets blancs de l'Himalaya se dressent au loin, si brillants à la lumière de l'aube que je dois plisser les yeux pour les regarder. Mais même ainsi, mon regard s'humidifie. « Ils sont trop nombreux, » dit le diacre. « Je n'avais prévu qu'une douzaine de coulis sherpas. »«
Ce ne sont pas des coulis, »
le corrige Reggie.
« Sherpa signifie « peuple de l'Est ». Ils sont arrivés par le col de Nangpala, il y a plusieurs générations. Ils ont combattu pendant 1000 ans pour leur terre et leur indépendance. Et n'ont jamais été les coulis de personne.
« Et ils sont tout de même trop nombreux. » répète le diacre, alors que les silhouettes se précisent en s'avançant vers nous. Reggie secoue la tête.
Je vous expliquerai plus tard pourquoi il nous faut au moins 30 hommes. Pour l'instant, je vais tous vous les présenter et vous indiquer la dizaine d'entre eux qui, d'après moi, feront d'excellents grimpeurs en altitude. Les tigres, comme aimait les appeler votre général Bruce et votre colonel Norton. La plupart d'entre eux parlent anglais. Je vais vous laisser vous entretenir avec chacun et en choisir deux comme partenaires d'escalade.
Vous connaissez leurs noms ? Demandai-je.
Bien sûr. Je connais aussi leurs parents, leurs femmes et leurs familles. Et tous ces Sherpas vivent près de Darjeeling ?
Demande Jean-Claude.
Près de votre plantation ? Non, ces hommes sont les meilleurs. Certains vivent dans la région du Solukhumbu, au Népal, près des contreforts sud de l'Everest. D'autres viennent du district népalais du Elambu, de la vallée d'Arun ou de celle du Rolwaling. D'autres encore de Katmandou. Seul un quart d'entre eux vit à moins de 4 jours de marche de Darjeeling.
Les précédentes expéditions ont toujours choisi quelques Sherpas à Darjeeling, puis ont engagé des porteurs dans les villages tibétains qu'elles traversaient, dit le diacre.
Oui,
répond Reggie, et elle fait claquer sa cravache de cuir sur sa paume gantée. Elle est rentrée de sa chevauchée matinale au moment où nous nous sommes tous les trois retrouvés dans l'immense cuisine pour prendre un café avant l'aube.
C'est la raison pour laquelle les 3 premières expéditions anglaises disposaient de quelques bons sherpas pour l'ascension, mais de nombreux porteurs inaptes à l'escalade. Les Tibétains sont des gens formidables, fiers et courageux, mais quand on les oblige à travailler comme porteurs, vous vous en souvenez sans doute, monsieur Deacon, ils ont tendance à agir comme des ouvriers syndiqués anglais. Ils se mettent en grève pour exiger de meilleurs salaires, davantage de nourriture, des journées de travail plus courtes et toujours au pire moment. Les Sherpas ne font pas ça. S'ils s'engagent, ils respectent leur engagement jusqu'à la mort.
Le diacre grommelle, mais je remarque qu'il ne la contredit pas. Passang a disposé les 30 Sherpas en ligne. Il s'avance un par un et salue Lady Bromley-Montfort, qui nous les présente elle-même. Les noms étrangers glissent sur moi. À mes yeux d'Américain, tous ces hommes se ressemblent et il me faut 1 minute pour prendre conscience de mon astigmatisme. Tel homme a une barbe noire, tel autre une fine moustache, et ce troisième est rasé de frais, mais il a les sourcils qui se rejoignent. Ce Sherpa a des dents de devant manquantes, tandis que celui qui le suit a un sourire d'une blancheur éclatante. Certains sont baraqués, d'autres minces. Certains portent d'élégants vêtements de coton, d'autres presque des haillons. Rares sont ceux équipés de chaussures de randonnée à l'occidental. La plupart ont des sandales et quelques-uns vont pieds nus. Une fois les présentations terminées, Passang fait signe à plus de la moitié d'entre eux de le suivre un peu plus loin, où ils s'assoient et se mettent à converser doucement.
« Je n'ai jamais fait passer d'entretien d'embauche à un Sherpa, »
murmure Jean-Claude. « Moi, si, » répond le diacre. Pour finir, ce sont surtout Reggie et Passang qui nous aident à faire notre choix. Alors que nous nous contentons tous les trois d'échanger quelques mots avec les Sherpas,
Passanque dit par exemple, « Nyima est capable de porter deux fois son poids pendant toute la journée sans se fatiguer. » Ou Riji commente, « Angchiri vit dans un village situé à plus de 4500 mètres d'altitude et n'a pas de problème à monter plus haut. » C'est ce genre d'information, en plus de la capacité de ces hommes à comprendre et parler l'anglais, qui nous permet de nous décider. Au bout de 20 minutes, nous comprenons que Passang sera l'unique Sherpa de Reji, en plus d'être le Sirdar, c'est-à-dire le chef de tous les autres, et le médecin de l'expédition. JC a choisi Norbu Shedi et Lakpa Yise. Quoique originaire de deux villages différents et sans lien de parenté, ils se ressemblent comme des frères. Tous deux ont une frange qui leur tombe sur les yeux, un moyen de se protéger de la cécité des neiges pour ceux qui vivent en altitude au milieu des glaciers, nous explique Reggie. Le diacre désigne Nyima Tsering, un robuste petit Sherpa qui éclate d'un rire sonore avant de baragouiner des réponses en anglais et dont Passang a inventé la force et l'endurance. Et Tenzing Botia, un homme plus grand et plus mince, qui parle bien anglais et ne se déplace jamais sans son propre assistant, le jeune Tejbir Norgay. Mon choix se porte sur Baburita, un type souriant, bien en chair et apparemment en bonne santé, et sur Angchiri, celui qui vient d'un village en altitude, comme partenaire d'escalade. Le large sourire de Babu est tellement contagieux que je dois me forcer à ne pas l'imiter. Il a toutes ses dents. Ang est un homme de petite taille, mais au large poitrail, digne d'un pur sang du Kentucky, aurait dit mon père. Je n'ai pas de mal à l'imaginer grimpant tout en haut de l'Everest sans avoir besoin de bouteilles d'oxygène. Nous passons encore quelques minutes à discuter, puis Reggie nous annonce qu'un certain Senchumbi, apparemment sans nom de famille, sera le chef cuisinier de l'expédition, tandis que Nawangbura, un grand homme sérieux à la peau relativement claire, aura la responsabilité des bêtes de somme. « Et puisqu'on parle des bêtes, dit-elle, nous devons commencer à répartir les charges en ballots pour les mulets. » Elle tape dans ses mains, Passang fait quelques gestes, et les 30 hommes se précipitent vers les écuries où sont garés les camions avec notre matériel. C'est une plaisanterie. Je suis à califourchon sur un poney blanc et mes pieds reposent à plat par terre.
Ce sont des poneys tibétains, dit Reggie. Non seulement ils sont plus assurés que les chevaux ou que les autres races de poneys sur les pistes verglacées que nous allons emprunter dans les montagnes, mais ils pèsent là où d'autres ne trouveraient pas de nourriture.
Oui, mais... Je me redresse et laisse l'animal se dégager d'entre mes jambes arquées. Jean-Claude rit à s'en décrocher la mâchoire. Mon ami a les jambes assez courtes pour donner l'impression de monter son poney. Quant au diacre, il en a choisi un, mais ne s'est pas donné la peine de grimper dessus. En voyant le grand hongre rouant de Reggie rentrer à l'écurie à l'aube, j'en ai déduit que nous monterions de vrais chevaux au Tibet. Après tout, dans la liste d'équipements pour l'expédition de 1924, Bruce recommandait à chaque Anglais d'apporter sa selle. Sauf que mon poney miniature ne supporterait même pas le poids d'une selle anglaise. Une selle américaine l'écraserait purement et simplement. Comme s'il lisait dans mes pensées, le diacre dit « Vous pouvez poser un tapis de selle sur le dos de cette pauvre bête, Jake, mais vous vous fatiguerez à garder les pieds levés. » Et il ne s'agirait pas de glisser de votre monture sur certaines pistes étroites que nous allons parcourir. Par endroits, la pique est de 90 ou 100 mètres. Il y a bien les selles tibétaines que Mallory voulait nous voir utiliser en 1921, mais je ne les recommanderais pas.
Pourquoi ? Elles sont en bois et en forme de V, répond Reggie. Vous auriez les testicules écrasés au bout de 5 kilomètres.
C'est la première fois que j'entends une femme utiliser le mot « testicule ». Je pique un phare, et l'éclat de rire de Jean-Claude n'arrange rien. « Je vais aller aider le docteur Passang à surveiller le chargement », annonce le diacre. Reggie, qui commençait à expliquer au garçon d'écurie quelle petite selle allait avec quel poney, s'interrompt pour s'exclamer
« Nous déjeunons à 11 heures précises ». À ce moment-là, nous devrons régler le problème des provisions.
Le diacre s'arrête, se retourne, ouvre la bouche pour parler, puis change d'avis et préfère serrer les dents sur la tige de sa pipe. Faisant volte-face sur son talon droit à la manière des militaires, il quitte l'écurie à grands pas et se dirige vers l'endroit d'où nous parviennent les exclamations des Sherpas et le braiement des mulets.
Le diacre et Reggie se querellent vivement pendant le déjeuner. Ils se querellent de nouveau en buvant un Xérès plus tard dans l'après-midi, une fois que le matériel et les provisions ont été répartis dans des ballots pour pouvoir être rapidement chargés sur les mulets demain matin. Et la querelle reprend au cours du dîner dans la grande salle à manger. Ils se disputent à propos des provisions, de l'itinéraire, de l'organisation des recherches du corps de Percival, des méthodes d'alpinisme sur l'Everest et, surtout, ils se disputent la direction de l'expédition. Au milieu de leur âpre discussion au cours du déjeuner, le diacre évoque un mystère qu'il n'a jamais réussi à résoudre malgré tous ses contacts. Comment Percival Bromley a-t-il pu être autorisé à suivre l'expédition de 1924 ? Ni le général Bruce, avant de tomber malade et d'abandonner le groupe, ni le colonel Norton, qui a ensuite pris la direction des opérations, n'étaient du genre à dévier de leur projet initial. Or, le fait d'endosser la responsabilité d'une personne supplémentaire modifiait leur plan, et le jeune Percy n'était pas un alpiniste assez renommé pour que Mallory et les autres acceptent facilement sa présence, même à distance. Même les bons amis du diacre, Noël Odell et le cinéaste John Noël, à l'origine de la controverse sur les lamas danseurs, n'avaient pas pu lui dire pourquoi Percy avait eu la permission de les suivre. Il savait seulement que, contre toute logique, Bruce et Norton affirmaient que ça ne posait pas de problème. Et tous les alpinistes que le diacre a interrogés ont répondu que Percy était un type si sympathique et sans prétention que, tant qu'il se contentait de suivre à environ une demi-journée de distance, il était toléré. Mais il n'avait jamais été question que Percival Bromley les accompagne aussi loin que le camp de base, au pied du glacier du Roongbuck. C'était compris par tout le monde. En pleine querelle à propos des provisions à emporter, le diacre remet le sujet sur le tapis, se demandant une fois encore comment et pourquoi Percival Bromley avait été autorisé à suivre l'expédition jusqu'à l'Everest. Apparemment lassé, Reggie adopte le ton qu'on emploie pour clore une discussion.
Écoutez-moi une dernière fois, monsieur Deacon. Mon cousin Percival séjournait ici lorsque j'ai reçu à dîner les leaders de l'expédition de 1924 avec Lord et Lady Lytton. Lord Lytton, vous le rappelez peut-être, est le gouverneur général du Bengale. Le général Bruce, le colonel Norton et lui ont passé presque une heure à s'entretenir avec Percy dans le bureau. Lorsqu'ils en sont sortis, Bruce et Norton ont annoncé qu'ils autorisaient Percy à les suivre, pas à voyager avec eux, mais strictement derrière eux, et sans jamais figurer sur la liste officielle des membres de l'expédition, à condition qu'il se procure son propre poney, sa tente et ses vivres. Ce qui ne posait pas de problème, vu que depuis 2 semaines, Percy rassemblait son matériel ici, à la plantation.
Le diacre secoue la tête. C'est insensé. Autoriser quelqu'un à suivre l'expédition pendant la traversée du Tibet. Quelqu'un qui ne dispose pas d'un laissez-passer officiel dans ce pays. Même si Lord Percival suivait à une journée de distance. En tant qu'Anglais, son arrestation ou sa détention aurait pu placer toute l'expédition dans une position difficile vis-à-vis des Dzongpons et des autorités tibétaines.
Que sont ces Dzongpons dont j'ai tant entendu parler ? Demande Jean-Claude. Des chefs de village ? Des seigneurs de guerre tibétains ? Pas exactement, répond Reggie. La plupart des communautés tibétaines sont dirigées par des Dzongpons, en général 2 hommes, un lama et un laïc du village. Mais parfois, il n'y en a qu'un seul.
Elle se tourne vers le diacre.
L'après-midi touche à sa fin, monsieur Deacon. Avez-vous obtenu des réponses satisfaisantes à toutes vos questions ?
À toutes sauf une. Pourquoi votre cousin a-t-il tenté de gravir l'Everest après le départ de l'expédition ? Reggie lâche un rire dénué d'humour.
Percy n'a jamais tenté de gravir l'Everest. De cela, au moins, je suis sûr.
Siegel a affirmé le contraire à la Berliner Zeitung et au Times, dit le diacre. Il a raconté qu'en arrivant au camp 2 avec d'autres Allemands, dans l'intention de rencontrer Mallory et aussi par pure curiosité, ils avaient vu votre cousin et Kurt Meyer qui redescendaient sur l'arête nord en titubant. Apparemment, ils étaient en difficulté. Reggie secoue la tête et ses boucles d'un noir bleuté ondulent sur ses épaules.
Bruno Siegel a menti,
réplique-t-elle avec une absolue certitude.
Percy avait peut-être une raison d'aller dans la montagne, mais je sais qu'il n'est pas allé au Tibet pour tenter l'ascension de l'Everest. Bruno Segel n'est qu'un vulgaire malfrat et un menteur.
Comment savez-vous que c'est un malfrat ? Demande le diacre. Vous le connaissez ?
Bien sûr que non. Mais j'ai pris des renseignements en Allemagne et ailleurs. Segel est un alpiniste dangereux, pour lui-même et ceux qui l'accompagnent. Et dans sa vie civile à Munich, c'est une brute fasciste.
Pensez-vous que Segel ait pu jouer un rôle dans la mort de votre cousin et de Meyer ? Reggie pose son regard outre-mer sur le diacre, mais ne répond pas. Dans un moment plus calme de l'après-midi, nous montrons à Reggie les nouveaux crampons 12 pointes de JC et le piolet raccourci pour les ascensions verticales. Il lui explique le fonctionnement du jumard et lui présente l'échelle de corde de spéléologue que nous avons apportée.
Brillant, commente Reggie. Avec ça, il sera beaucoup plus facile de monter au col nord. Et grâce aux cordes fixes et aux échelles, ce sera aussi beaucoup plus sûr pour les porteurs. Mais je crains de ne pas avoir de bottes assez rigides pour ces crampons.
Vous n'en auriez besoin que si vous preniez la tête de l'ascension, dit le diacre. Et je vous garantis que ça n'arrivera pas.
J'ai apporté une paire supplémentaire de bottes rigides qui pourraient peut-être vous aller, dit Jean-Claude. Je file les chercher et nous verrons.
Les bottes lui vont. Elle fait quelques mouvements pour essayer les marteaux à glace. Le diacre ne lève pas les yeux au ciel, mais c'est tout comme.
Moi aussi, j'ai une innovation à vous montrer, dit Reggie.
Elle nous abandonne un instant et revient avec quatre espèces de casques en cuir comme en portent les footballeurs ou peut-être les mineurs de fond. À la différence qu'il y a deux batteries à l'arrière et une lampe électrique devant.
Je les ai fait fabriquer après mon retour de l'Everest en septembre dernier,
explique-t-elle.
Lord Montfort possédait d'importantes exploitations minières au pays de Galles. Ce sont les dernières nouveautés. Des lampes électriques frontales pour remplacer les lampes à acétylène qui risquent de déclencher des explosions. Les batteries sont un peu lourdes, mais elles alimentent les lampes pendant des heures. Et j'ai de nombreuses batteries de rechange.
À quoi cela pourrait bien nous servir ? Je me le demande, dit le diacre, tenant les lanières de cuir, la lampe et les batteries à bout de bras. Reggie soupire.
D'après Norton, Noël et les autres, à qui j'ai parlé quand le groupe d'effets est repassé par Darjeeling l'année dernière, Mallory et Irvine avaient prévu de quitter leur tente vers 6h ou 6h30 du matin. Sauf que tout prend plus de temps à cette altitude. Enfiler correctement ses bottes, tenter de faire fondre de la neige pour se préparer une boisson chaude et un porridge avant de partir, charger les appareils à oxygène en s'assurant qu'ils fonctionnent, et tout ça avec des gestes terriblement ralentis. Bref, ils n'ont pas dû quitter leur campement avant 8h, ce qui est beaucoup trop tard quand on veut tenter d'attaquer le sommet. Même s'ils l'avaient atteint, ils n'auraient jamais pu redescendre au camp 5 avant la nuit, sans doute même pas à la bande jaune.
Selon vous, à quelle heure une équipe devrait-elle partir avec ces trucs sur la tête ? Demande le diacre.
Pas après 2h du matin, monsieur Deacon. Je suggérerais même de partir à minuit le jour de l'assaut vers le sommet.
L'idée d'escalader la nuit à cette altitude le fait rire. Nous gèlerions, dit-il d'un ton dédaigneux.
Non, non, dit Jean-Claude. N'oubliez pas, Richard, que grâce à vous, nous disposons des vestes en duvet d'oie de Monsieur Finch pour nous tenir chaud. Et nous en avons assez pour nous et pour nos tigres sherpas. Je pense que Lady Reggie a raison. Il y a moins d'avalanches la nuit. La neige et la glace sont plus fermes, ce qui est mieux pour les nouveaux crampons. Et si ces lampes frontales éclairent bel et bien le chemin, elles le font pour des centaines de mineurs au pays de Galles,
le coupe Reggie.
Du moins pour les ingénieurs et les contremaîtres. Et ces mineurs ne peuvent pas profiter de la lumière de la lune et des étoiles dans leur tunnel sombre.
« Magnifique !» s'exclame Jean-Claude.
« Très intéressant, dis-je. »«
Quitter le camp à minuit !» dit le diacre. « Complètement absurde. » 40 mulets sont affectés à la randonnée jusqu'à l'Everest, chaque bête étant capable de porter une double charge d'environ 70 kilos. Un Sherpa peut conduire deux mulets tout en portant lui-même son lot de notre excédent de bagages. Reggie a insisté pour que nous emportions plus de nourriture toute prête que nous ne l'avions prévu. Le diacre s'y oppose catégoriquement. Alors que nous dînons d'un délicieux plat de faisan accompagné d'un vin blanc de première qualité, Ils se querellent une fois encore. Je crois que vous ne comprenez pas ma théorie derrière cette expédition, Lady Broblemontfort, dit le diacre d'un ton glacial.
Je la comprends trop bien, monsieur Deacon. Vous voulez attaquer la plus haute montagne du monde en suivant la méthode alpine comme s'il s'agissait du Cervin. Vous comptez acheter autant de vivres que possible en chemin dans les villages tibétains que nous traverserons et chasser le reste. Chèvres sauvages, lapins, goa, la gazelle tibétaine, cerf blanc, mouton bleu de l'Himalaya, tout ce que vous trouverez.
Exactement. Et puisque vous prétendez avoir fait de l'alpinisme aussi bien dans les Alpes que dans l'Himalaya, vous savez que la méthode alpine n'a jamais été tentée sur l'Everest.
Et pour de bonnes raisons, monsieur Deacon. Pas seulement la taille de la montagne, mais la météo. Cette montagne a son propre microclimat. Même en cette saison précédant la mousson, le temps peut changer d'une minute à l'autre. Vous n'avez tout simplement pas prévu assez de nourriture pour tenir plusieurs semaines si nécessaire. Vous ne pourrez pas redescendre en courant à Shekardzong en passant par le Pangla depuis le glacier du Rongbuk chaque fois que vous serez à court de vivres. Et le petit village de Chodzong sur le côté Everest du Pangla n'aura pas de quoi vous ravitailler à cette période de l'année.
Je sais maintenant que « la » veut dire « col » en tibétain. Pangla, à presque 5200 mètres, est situé au sud de Shekardzong, le premier haut col avant d'approcher du monastère du Rongbuk, du glacier du même nom et de l'Everest. La plupart des expéditions mettent au moins 4 jours pour aller de Shekardzong au camp de base, à l'entrée de la vallée glaciaire du Rongbuk, et beaucoup plus encore pour trouver une voie d'accès au col nord par le glacier. Nous pouvons acheter de la nourriture supplémentaire à des villageois en chemin, insiste le diacre. Ce qui fait rire Reggie.
Le villageois tibétain acceptera de vous vendre son dernier poulet, même si sa famille doit ensuite mourir de faim,
dit-elle en montrant ses dents très blanches.
Mais comment ferez-vous, monsieur Deacon, pour conserver un poulet pendant des semaines si vous êtes bloqué par la neige au camp 3 sous le col nord? Vous comptez emporter de la glace? Un appareil électrique de réfrigération? Et une fois passé, Rongbuk, n'imaginez pas pouvoir vous nourrir du gibier que vous aurez tué. À l'exception du rare burel, le mouton des montagnes, et du yéti plus rare encore, il n'y a rien là-haut. Vous passerez vos journées à chasser plutôt qu'à escalader, sans garantie de ne pas mourir de faim.
Le diacre ignore la référence au yéti.
Je suis déjà allé là-bas. Ne l'oubliez pas, madame. J'y ai passé bien plus de temps que vous à explorer les voies d'approche sur la face nord de l'Everest.
Oui, vous y avez passé beaucoup de temps en 1921 parce que Mallory et vous n'avez pas été capables de trouver la voie évidente via le Rongbuk Est.
Le visage du diacre s'assombrit.
Écoutez,
poursuit Reggie, s'adressant cette fois à nous trois.
Je ne suggère pas de prendre autant de provisions que Bruce, Norton et Mallory. Dieu du ciel, je les ai vus quitter Darjeeling. 70 porteurs, 140 en comptant les Tibétains qu'ils ont recrutés de l'autre côté de la frontière, et plus de 300 bêtes de somme pour porter non seulement l'oxygène, les tentes et le matériel nécessaire, mais des quantités invraisemblables de conserves de foie gras, de saucisses fumées et de langues de bœuf.
L'appétit diminue avec l'altitude, dit le diacre. Il faut de la nourriture qui le stimule.
Oh oui, je sais. Reggie sourit. « J'ai perdu plus de 13 kilos sur le col nord l'année dernière. Je crois vous l'avoir déjà dit. » Au-delà de 7500 mètres, l'idée même de nourriture devient répugnante. Et on n'a pas l'énergie de la préparer. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté ce supplément de conserve et de denrées de base telles que des sachets de nouilles et de riz à réchauffer dans de l'eau bouillie, au cas où nous serions bloqués par le mauvais temps.
Le diacre nous regarde, J.C. et moi, comme s'il s'attendait que nous montions au créneau pour le soutenir. Nous nous contentons de lui sourire sans rien dire.
« Au lieu de 300 bêtes de somme, » continue Reggie, « nous ne voyagerons qu'avec 40 et en achèterons sur la route s'il faut en remplacer. Au lieu de 70 porteurs, nous n'en aurons que 30. » Au lieu d'embaucher des porteurs supplémentaires à Shekardzong, je me suis organisé pour que nous échangions nos mulets contre des yaks et que nous poursuivions notre route uniquement avec nos 30 sherpas. Mais il nous faut emporter de la nourriture en quantité suffisante. La recherche de mon cousin Percy prendra peut-être des semaines. Il n'est pas question de rentrer bredouille pour cause de manque de nourriture.
Le diacre soupire. Il ne peut pas lui avouer le véritable objectif que nous poursuivons, Jean-Claude, lui et moi. Attendre une météo favorable, escalader jusqu'au sommet en style alpin, puis, rentrez chez nous. » Reggie nous regarde l'un après l'autre.
« Je sais pourquoi vous vous êtes engagés dans cette expédition, messieurs, » dit-elle comme si elle lisait dans nos pensées coupables. « Je sais que vous espérez gravir l'Everest, que vous utilisez l'argent de ma tante et l'excuse de la recherche du corps de Percival pour pouvoir rejoindre la montagne et, avec de la chance, vaincre le sommet. »
Aucun de nous ne répond. Et aucun de nous n'a le courage de soutenir son regard froid.
« Ça m'est égal, » poursuit-elle. Il m'importe plus qu'à vous de retrouver le corps de Percy, peut-être pour des raisons que vous ne comprenez pas encore. Mais je veux également escalader l'Everest.
À ces mots, nous levons tous les yeux. Une femme au sommet de l'Everest? Ridicule! Pourtant, aucun de nous ne pipe mot.
Il est 21h, dit Reggie,
alors que plusieurs horloges résonnent à la même seconde à travers la grande maison de la plantation.
Nous devrions tous aller nous coucher. Nous partons à l'aube.
J.C. et moi nous levons en même temps que Reggie, mais le diacre reste assis. Pas avant que nous ayons réglé la question du commandement de l'expédition, madame. Une expédition ne peut pas avoir deux leaders. Ça ne marchera pas, tout simplement. Reggie lui sourit.
Ça a plutôt bien marché l'année dernière. Après le retrait du général Bruce pour cause de malaria. Le colonel Teddy Norton, sachant sans doute qu'il ne serait pas dans l'équipe qui s'attaquerait au sommet, a pris le commandement général de l'expédition, tandis que Monsieur Mallory était responsable de tout ce qui concernait l'escalade et notamment du choix de ceux qui tenteraient l'assaut final. Évidemment, il a décidé d'y aller lui-même, avec Sandy Irvine, qui était certes en pleine forme, mais inexpérimenté. Un garçon charmant au demeurant que j'ai eu plaisir à recevoir chez moi. « Eh bien, monsieur Deacon, je suggère que nous adoptions le même système. Je serai à la tête de l'expédition proprement dite, vous serez chef de l'escalade et libre de vos décisions dans ce domaine, sous réserve de prendre en compte les suggestions que je pourrais vous faire dans notre recherche de mon cousin Percy. »
Je vois le diacre chercher les mots adéquats pour rejeter une fois pour toutes cette proposition. Mais il se révèle trop lent. Passang, le docteur Passang, écarte le fauteuil de Reggie pour lui dégager le passage.
« Bonsoir, messieurs, »
dit-elle doucement.
« Nous partons pour l'Everest demain à l'aube. »